Bonjour Christiane.
Bonjour Marianne.
Christiane Campagna, ici chroniqueuse pour ces grands noms de la médecine. Aujourd'hui, au lendemain de la Saint-Valentin, oui. Les grands noms de la sexologie. Et puis, il me semblait en lisant vos notes, Christiane, que on a commencé à en parler assez tard de sexologie.
Oui, vraiment, parce que en fait, c'est une science, une discipline qui a été largement freinée par toutes les conceptions religieuses et morales et même misogynes, je dirais aussi, de la société. Donc, parfois, je dirais que j'utiliserais l'expression populaire dont on ne pose pas des questions quand on ne veut pas savoir les réponses.
Tout à fait. Quatre grands noms dont vous voulez nous parler aujourd'hui. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler en profondeur de ces quatre grands pionniers-là, mais dans l'histoire du 20e siècle, il y a quand même quatre noms à retenir.
Oui, parce que ma première idée, c'était de parler du duo Masters et Johnson, qui font d'ailleurs l'objet d'une série en ce moment aux États-Unis, c'est en version romancée. Mais en faisant mes recherches, je suis tombée particulièrement sur celui qui les a précédés, Alfred Kinsey. Je pense pas qu'on aurait eu Masters et Johnson si on n'avait pas eu Kinsey auparavant. Il est né au New Jersey en 1894. C'est d'abord un professeur d'entomologie et de zoologie et plus tard surnommé Dr. Sex.
Oui, je lisais ça.
Il donne des cours sur la sexualité et le mariage dans les années 30. Mais ce sera surtout lui qui va mener la première vraie grande recherche scientifique. Vous savez, une recherche pas basée sur des suppositions, sur de la philosophie.
Sur la science, quoi.
Vraiment, là. Sur la science, parce qu'il y avait eu toutes les hypothèses de Freud auparavant. Et on verra que plusieurs seront démontées un peu par ce que feront les vrais chercheurs après lui. Donc, il a décrit et analysé à partir de questionnaires soumis à des milliers de personnes le comportement sexuel des Américains dans une période qui va de 1940 à 1952. Et ça va être publié sous forme de rapports qu'on appelle les rapports Kinsey, qui vont faire beaucoup, beaucoup jaser, qui vont ébranler les gens à la fois chez les scientifiques et dans le grand public.
Mm-hmm.
Ceci dit, il faut savoir que le grand public, c'était pas des écrits très accessibles pour eux. C'est donc à travers la presse populaire que viendra le scandale. Donc déjà, ça veut dire que déjà la façon dont on parlait les médias, ça avait un parfum de scandale. Parce que ça défiait beaucoup les croyances, justement, de l'époque. Ça énonce des pratiques sexuelles qu'on croit réservées à quelques bizarres, alors qu'il énoncera que c'est vrai chez un peu tout le monde. Et c'est particulièrement vrai pour ce qui est des fantasmes et des relations homosexuelles. C'est un peu lui qui amènera le premier la notion que c'est pas tout noir, on est hétéro ou on est homo. Il y aura dans son rapport le fait d'un tiers à la moitié de la population américaine aurait eu une expérience homosexuelle sans que ça ne remette en cause le fait qu'ils étaient hétérosexuels. Alors, ça a vraiment suscité de nombreuses critiques. D'autres aspects qui ont créé le scandale, le fait que les gens avaient des relations avant le mariage, des relations extra-conjugales, toutes des choses qu'on pensait réservées. On pensait que ça arrivait aux acteurs, on pensait que ça arrivait à quelques bizarres, mais que ça arrivait un peu à tout le monde et ça va même nuire à son financement.
Pour ses études.
Ouais.
Tout ça au milieu des années 50 à peu près,
oui.
Christiane. Donc, on peut comprendre que ça ait semé de la controverse là, au sein de la population.
Quand on parle des États-Unis dans les années 50, on parle de la période du McCarthyisme, vos idées politiques étaient scrutées, tout ça. Et ça lui fera perdre le financement de la Fondation Rockefeller et ça l'empêchera d'atteindre son objectif d'atteindre ses 10 000 interviews. Lui-même se disait bisexuel et avait un mariage ouvert avec sa femme. A posteriori, on dira que même si ça a pris du temps, il a contribué à faire changer la législation en rendant ces choses-là un peu plus
transparente, hein,
oui,
parce que c'est
voilà.
Ça qu'il voulait aller au-delà du conformisme ou en tout cas du moins de l'hypocrisie là, dont on parle pas de ça. Puis...
C'est ça. Et qu'il aurait brisé de la culpabilité aussi en se rendant compte que t'es pas seul à avoir tel type de fantasmes ou de relations sexuelles.
Maintenant, peu de temps, il nous reste quelques minutes tout de même là pour parler de Master et Johnson, qui me semble être deux chercheurs ou du moins deux spécialistes là plutôt intéressants.
Oui, Masters est d'abord gynécologue et puis décide de se lancer dans l'étude de la sexualité. Il embauche une assistante de recherche qui a fait des études en psychologie, mais qui fait carrière comme chanteuse à ce moment-là. Et c'est ensemble qu'ils vont justement, eux, observer en laboratoire, avec des instruments de mesure, tout le... Ils vont observer des gens en train d'avoir des relations sexuelles, en train d'avoir l'orgasme. Ils vont d'ailleurs devoir commencer dans des bordels parce que c'était pas le bienvenu à l'université, ces recherches-là. Et c'est à eux qu'on doit, là, c'est là que c'est très important. Toute cette description, on apprend ça après... Bon, moi, je suis de l'époque où il y avait des cours d'éducation sexuelle à l'école et où on apprend là, que ça se divise entre la phase d'excitation, la phase dite du plateau, qu'il y a l'orgasme et la résolution ensuite. Et c'est aussi eux qui vont être vraiment les premiers à dire qu'un orgasme clitoridien, là, c'est un vrai orgasme, tout autant qu'un orgasme vaginal. Contrairement aux écrits de Freud, qui était bon, assez empreint de misogynie et qui disait que ce n'était pas le vrai orgasme. Ils vont aussi dire que les personnes âgées peuvent avoir une sexualité parce qu'ils ont étudié des gens de tous âges dans leurs études.
Et il faut le dire, je pense, le souligner, Johnson était une femme, donc oui. Une femme qui étudiait d'autres femmes.
Oui, et ça, c'était une première. L'idée qu'ils aient travaillé à deux, c'était une première que, pour une fois, une femme s'intéresse à la sexualité des femmes. Et eux, ils vont aller plus loin que l'étude, ils vont aussi créer une thérapie. Et eux recommandaient qu'en thérapie de couple, les thérapeutes soient deux aussi et qu'ils soient un homme et une femme. C'est plus tout à fait leur protocole qui est suivi aujourd'hui en thérapie, mais il reste que c'est eux qui ont lancé cette idée-là de thérapie et qui vont créer beaucoup de vocations chez les sexologues.
La série s'appelle Masters of Sex, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Et aux États-Unis, c'est sur la chaîne Showtime. C'est évidemment, il y a beaucoup d'articles. Si vous faites des recherches, justement, vous allez voir beaucoup d'articles qui prennent la peine de distinguer la part de la fiction et la part de réalité. Ils ont été mariés de 71 à 1993. Lui était marié quand ils se sont connus. À force de travailler ensemble, ils se sont mariés, mais là, c'est pas clair. Est-ce que c'était vraiment de la romance? Il y a beaucoup de contradictions de la part des historiens de ce côté-là. Mais ils n'étaient plus ensemble au moment de leur décès respectif.
Et très rapidement, Madame Haidt, qui est toujours vivante, Christiane?
Oui, et qui habite maintenant en Allemagne, parce que justement, c'est son rapport ayant fait tellement de scandales, elle a renoncé à la citoyenneté américaine, est allée vivre en Allemagne. Elle a aussi fait des études au Japon. Elle a poussé encore plus loin. Elle a interrogé, elle, des femmes. Sa méthodologie est contestée parce qu'elle envoyait des questionnaires par la poste et on les retournait sur une base anonyme et volontaire. C'est une méthodologie qui a souvent été contestée, mais ça va mettre encore plus de l'avant le fait que les femmes ont une sexualité, elles se font du plaisir même quand elles sont seules et que ce plaisir-là passe principalement par le clitoris, ce qui va causer beaucoup de scandales chez une sexualité où on pense encore l'homme et la pénétration absolument nécessaires.
Ben, on n'y pense pas, mais ces quatre personnes-là ont fait beaucoup, oui, pour la sexualité des adultes, des gens là, en général, mais des femmes beaucoup. C'est
oui,
ce que
beaucoup.
Je retiens, reconnaissance du plaisir sexuel féminin, ce qui est assez important, bien sûr. À savoir, je le disais tantôt en introduction, Christiane, la sexologie, c'est particulièrement très reconnu ici au Québec et ça aussi, on peut en être fiers. Merci, Christiane Campagna.
Je vous en prie.